Une des victimes alléguées d'Éric Salvaille, celle qu'on connaissait comme Dédé, a décidé de sortir publiquement. On sait maintenant qu'il s'appelle Donald Duguay. Notre collègue de Cogeco, Monique Néron, l'a rencontré et elle est avec nous ce matin pour un compte-rendu. Salut Monique.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup. Écoute, on a des extraits à faire entendre à nos auditeurs. Qu'est-ce qui t'a dit exactement le fameux Dédé maintenant qu'on sait qui est Donald Duguay?
Oui, exactement. On le connaissait, Dédé, dans l'acte d'accusation formelle d'agression sexuelle, d'harcèlement et de séquestration. Pourquoi il sort? C'est parce que beaucoup de gens se posent la question.
Ben oui.
Hein? Il veut pas vivre dans la honte et dans l'ombre. Il dit que c'est pas à lui à baisser la tête. Il a envie que ce processus-là se fasse à visage découvert. Donc, il a fait les démarches auprès du tribunal pour lever l'interdit de publication. Lui, ce qu'il allègue, c'est avoir été agressé sexuellement dans la salle de bain de Radio-Canada en 93. À ce moment-là, il est messager avec Éric Salvaille. Éric Salvaille est son collègue. Ils sont donc vis-à-vis. Il n'y a pas de question d'abus de pouvoir dans cette affaire-là. Mmh. Et ça a été un crescendo, selon ce qu'il raconte, d'harcèlement sexuel et criminel qui aurait duré plusieurs mois. Il ne peut pas entrer dans le détail de ce qui s'est passé dans cette dite
salle de bain-là. Parce que c'est réservé à la cour.
Ça va être réservé à la cour. Cependant, il y a bien sûr eu d'abord le choc de l'article de la presse en octobre 2017. On peut l'écouter.
C'est une amie qui me contacte pour me montrer cette information-là. Je suis content qu'il se soit fait pincer. J'ai un peu lu ce qui s'était dit sur le truc toute la journée et c'est ce qui a déclenché ma mémoire traumatique. Les souvenirs, les sons, beaucoup de choses reviennent en mémoire. C'est très déstabilisant.
Concrètement, ça s'est manifesté comment?
On revit tout comme si c'était hier. Les crises d'anxiété, attaques de panique, les tremblements sans cesse. J'ai passé 5 jours sans dormir, vomissements. Le cerveau, pour survivre à cette faculté-là, de mettre dans un tiroir, de bien enfermer. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, le tiroir s'est ouvert et il n'y avait plus moyen de remettre en place. 48 heures après avoir fait la plainte à la police, j'étais en choc post-traumatique trop élevé. Le stress était vraiment trop élevé pour travailler. Donc, d'essayer d'un retour progressif au travail, ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé sur l'aide sociale, les banques alimentaires. J'arrivais plus à m'occuper de moi-même, de mon quotidien.
On soupçonne pas, mais là, c'est la réalité d'une victime, là, pour vrai, qui nous dépeint, en fait, son chemin psychologique, puis comment, pourquoi. Ça explique bien des affaires, pour vrai. Moi, j'avais un a priori ce matin en disant, mon Dieu, pourquoi là? On a souvent cette question-là. Pourquoi attendre aussi longtemps? Mais il y a quelque chose qui peut te ramener le passé en pleine face, là.
Exactement. Il s'est ramassé en psychiatrie, là. Rien de moins. Tentative de suicide jusqu'en janvier dernier. Et il va en reparler de cette plainte-là dans le prochain extrait que vous allez entendre, parce qu'après, en sortant de l'hôpital, justement, là, il décide de se rendre au SPVM et de porter plainte. C'est là qu'il entre dans l'appareil judiciaire.
Lorsque la police a décidé d'ouvrir une ligne, j'avais déjà réfléchi pendant 2-3 jours avec mon médecin, avec des amis, à savoir ce que je faisais. Et je voyais bien que ce qui sortait dans les médias était quand même assez récent dans la dernière décennie. Je me disais, s'il y a d'autres victimes comme moi qui ne sortent pas, si on se dit tous, ça ne me regarde pas, je ne veux pas aller rejouer là-dedans, on n'aura jamais le portrait global. Donc, ça devenait une responsabilité. Je n'ai jamais su si j'avais été sa première victime, mais je me disais qu'il était presque impossible qu'en 93, au début, les premières fois où il y a eu les premières altercations, parce que ça s'est fait en crescendo, nous travaillions tous les deux à la salle du courrier de Radio-Canada. Donc, c'était plus profond qu'un abus de pouvoir ou que l'argent monte à la tête ou sa notoriété. Il y avait autre chose. À l'époque, je venais d'avoir 20 ans. L'homosexualité n'était pas aussi bien acceptée. J'ai travaillé à Radio-Canada. J'avais un contrat temporaire. C'est arrivé un vendredi. Le lundi suivant, j'ai voulu aller porter plainte à la police. Et les collègues, les amis, évidemment, on pèse le pour et le contre. Ils disent, bon, est-ce que on va te croire? Est-ce que tu vas garder ton travail? Il y a la guerre du SIDA. Comment tu vas être accueilli avec la police? Tu pourras perdre ton emploi? J'étais trop jeune pour arriver à prendre des décisions si grandes et j'ai rebroussé chemin. Aujourd'hui, je me sens en partie coupable parce que je me rends compte que son comportement a continué et que si peut-être je l'avais arrêté à ce moment-là, j'avais été à la police, il y aurait peut-être beaucoup de victimes qui auraient eu une meilleure vie. Le système ne peut pas agir si les victimes ne sonnent pas l'alarme. Mais j'ai failli à mon devoir de citoyen à ce moment-là. C'était important pour moi de ne pas faillir une deuxième fois. Et c'est là où le processus judiciaire s'est mis en place.
On le sent quand même solide. Oui. Tu sais, on lit dans la presse ce matin, il dit qu'il va se rendre jusqu'au bout, quitte à finir sur les genoux. Est-ce que tu l'as senti, toi, personnellement, quand tu as été face à lui?
Exactement. Cette force-là, oui, et ce désir de se rendre jusqu'au bout et de laisser la justice trancher, au final. Lui, il s'est dit, moi, je le fais, j'ai cette responsabilité-là, vous l'avez entendu, hein, qu'il n'a pas été capable d'avoir à l'âge de 20 ans. On peut comprendre aussi le contexte, il le décrit. Hein.
Complètement.
L'homosexualité, c'est juste le fait que que ce soit un homme de se présenter à la police pour agression sexuelle dans ce contexte-là.
Il y a plein de couches qui...
Il y a plusieurs couches qui expliquent pourquoi c'est écoulé autant de temps.
Une petite question rapide. Est-ce que c'est pas risqué de faire cette sortie-là, même s'ils gardent des informations pour le procès? Mais on a souvent vu en procès dire la sortie préalable dans les médias a brouillé les pistes ou les éléments de preuve.
Ou un avocat, d'habitude, va conseiller à son client de ne pas se prononcer publiquement.
Tout à fait.
C'est ce qu'on est habitué de voir, mais là, pas là.
Pas dans ce cas-ci. Et il a demandé conseil au procureur de la Couronne qui était au courant de sa démarche.
Okay.
Donc, c'est quand même relativement encadré. C'est sûr que la défense pourra éventuellement utiliser toutes les trames sonores, là, même celles qu'on fait présentement, chaque fois où il a pris la parole, mais il a décidé de le faire une seule fois de façon coordonnée, écrite avec nous à la radio et également à la télé, une seule fois, et ensuite le processus judiciaire va suivre son cours. Ça risque d'être long, il est le seul, la récente pression-là porte tout seul, le seul à avoir la plainte, donc ça sera de retour en cours le 27 mars, mais attendons-nous pas à un procès avant peut-être un an ou deux. Là.
Non, effectivement, les délais de justice sont encore existants malgré l'arrêt Jordan. Merci beaucoup, Monique Néron, d'être venue voir ce matin avec les précisions. Puis c'est troublant d'entendre ça quand même. On connaît jamais toute l'histoire. Hein, pour vrai, il y a plusieurs facettes et ça va suivre son cours. Monique l'a dit, le 27 mars, que ça repasse en cours.
En semaine, dès 5h25.
96.9.